Europe 1.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc Lemoyne.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Clémentine.
Bonjour,
bonjour David. Bonjour à vous tous. Et bonjour Ivan Jacob.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour la première fois. On est content que vous soyez là. Bienvenue à vous. On
Merci.
Va parler de l'histoire de la mode avec vous.
Tout à fait.
Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, comme chaque après-midi sur Europe 1, pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui cependant ont un point commun.
Il est l'or, l'or de se réveiller.
Vous avez trouvé Jean-Luc ?
Bah oui, ils sont en fan de Louis de Funès.
Presque Jean-Luc. Comme lui, comme Don Salluste de Bazan, le ministre des Finances du roi qu'il incarne, nos personnages du jour ont la folie des grandeurs. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par Nicolas Fouquet, vous savez, le surintendant des finances lui aussi, mais à la cour du roi Louis XIV. Un roi pour qui il a voulu bien faire, mais surtout trop faire. Et a fini par le payer cher. Puis, je vous raconte un grand couturier, Paul Poiret, qui a vu les choses en grand, en trop grand lui aussi. Il était le premier grand couturier français, mais il n'a pas réussi à le rester. Vous verrez cela. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoyne, qui allez dresser le portrait de notre troisième personnage, qui lui aussi a la folie des grandeurs.
Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Rappelez-vous, hier, je vous racontais cette indienne qui s'est pris sur la tête un bloc d'excréments long congelé provenant d'un avion. Ça avait fait le bonheur de Clémentine. Eh bien, on reste en Inde aujourd'hui avec un personnage plus chanceux.
Vous préparez vos vacances, c'est ça?
Je pense. J'ai tout refait. J'ai fait mon passeport, j'ai fait mes vaccins, je suis prêt.
Oui, vaccin, fièvre jaune.
Surtout. Fait. Et là, le garçon s'appelle Mukesh Ambani. Il est une des plus grosses fortunes du pays. Hein. Et quand on a de l'argent, autant le dépenser. Il s'est fait construire une maison de 27 étages. Je vous fais la visite gratuite tout à l'heure.
27, je vois pas l'intérêt.
Oh si, vous allez voir, on peut vite la remplir.
Ah, très bien. Et aussi, leurs visites dans notre studio sont gratuites, ou presque. Ce sont nos chroniqueurs. Avec nous aujourd'hui, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je vous emmène en 1958, quand les soviétiques viennent d'envoyer dans l'espace le premier satellite artificiel Spoutnik. Alors l'opinion américaine, bien sûr, prend peur. Est-ce que les soviétiques seraient en train de gagner la course à l'espace? Comment montrer que la superpuissance, c'est l'Amérique, gagnée par la folie des grandeurs? Les Américains pensent tenir la parade. Et si on bombardait la Lune?
Ah ouais?
Eh
ah.
oui
Alors là,
ils allaient pas bien quand même.
Je reste quoi? Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession. Souvent, ce sont les siennes. Hein. Et là, en l'occurrence, je crois, David Castello-Lopez, aujourd'hui, vous nous parlez de ce qui est une obsession chez vous.
Oui, le Fanta.
Oui.
Le Fanta.
Ah oui,
alors, je peux pas dire que c'est une obsession personnelle. Pendant 15 ans, j'en avais pas bu. J'en ai rebu spécialement pour parler de notre chronique. Et on en parlera. Ben, je vous en parlerai.
Est-ce que vous nous direz si le Fanta est très différent du Pshit Orange?
Non, je ne parlerai pas de ça, mais je peux peut-être rajouter une phrase.
Merci, ça serait gentil.
Vous dites que vous en avez consommé, donc c'est un journalisme d'investigation aujourd'hui.
Ah, c'est du gonzo. C'est ce qu'on appelle du gonzo. Je vraiment m'implique dans mes chroniques, vous avez déjà pu le remarquer. Ouais.
Les origines, c'est en toute fin d'émission désormais. Et juste avant, comme dirait l'autre. Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé, c'est toujours présent, dans le présent, évidemment. Aujourd'hui, on remonte au 14e siècle et on parle mode avec une nouvelle venue, Ivan Jacob. Ivan, vous nous racontez la braguette, mais qui ne ressemble pas à celle que trois d'entre nous ici dans le studio portons sur nos pantalons.
Oui, trois ou quatre même, puisque les femmes aussi. Et les...
Elles ont. Vous êtes. Non, mais je vous voyais
moi,
en jupe.
Non, j'ai un pantalon. Ah, oui. J'ai un pantalon. J'ai fait une liaison qui n'existe pas.
Sous votre tunique, il y a un pantalon.
Tout à fait. Et on va parler des braguettes de la Renaissance, qui donc au XVIe, au XVe siècle, sont extrêmement volumineuses et pas du tout discrètes.
Ah oui, c'est
des grosses braguettes.
Des grosses braguettes. Mais c'était pour montrer.
portrait peut-être faire envie.
Mais on peut être déçu après. Dans
oui, ah bah oui, c'est le principe des push-ups, vous voyez. Mais aïeux, quelle époque, ce sera vers 6h moins le quart.
Mais bien avant, que va-t-il se passer, Stéphane?
Oh, vous savez, Jean-Luc, je l'ignore.
Eh ben, il va se passer ce que vous appelez, avec ce sens de la mesure qui vous caractérise, Armageddon.
Pas exagéré non plus.
Si, quand même. Dans 45 minutes, le monde entier entendra cette musique disco, annonciatrice du quiz. Je serai l'impitoyable arbitre. Et Clémentine et vous, vous vous écharperez avec tendresse pour le titre de meilleur historien du mardi, un titre très convoité.
Moi, je préfère être l'historien du mercredi. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est parvenu si haut, sans doute qu'aveuglé par le soleil, il n'était plus capable d'en apprécier les dangers. Mais ayant voulu éblouir son roi, il a fini par s'en attirer les foudres. Je vous raconte maintenant le surintendant des finances de Louis XIV, qui a eu la folie des grandeurs et dont le destin a d'ailleurs donné lieu à cette expression, Nicolas Fouquet. Nous sommes en août 1661 dans la chaleur d'un soir d'été. Depuis la terrasse du splendide château de Vaux, la cour admire les jardins façonnés par André le Nôtre. Louis XIV se voit offrir un ambigu, sorte de buffet où les plats chauds et froids sont servis en même temps par le talentueux maître d'hôtel François Vatel. Dans le parc, Molière a préparé un spectacle. À la nuit tombée, soudain tout s'illumine. Des centaines de lumières dévoilent les bassins, les fontaines, leurs statues de bronze. La somptueuse soirée s'achève par le plus féerique des feux d'artifice, éclairant les visages sidérés de tous les courtisans. Nicolas Fouquet, le maître des lieux, a alors 46 ans et il est, après le roi, l'homme le plus puissant de France, du moins en apparence. Pour en arriver là, il a gravi tous les échelons. Une ascension exceptionnelle digne de sa devise familiale, Conona Sendet, jusqu'où ne montera-t-il pas ? Le surintendant est issu d'une lignée bourgeoise de drapiers, ayant fait fortune dans les offices, c'est-à-dire les charges de fonction publique, y compris celles très haut placées, de conseiller du Parlement de Paris. Les Fouquet ont aussi su mener une efficace stratégie d'alliance matrimoniale. François Fouquet, le père de Nicolas, a épousé l'héritière d'une vieille famille de robe, la fille d'un contrôleur général des finances. Il est ainsi proche des hommes les plus importants du royaume, le duc de Sully et le cardinal Richelieu. En tant que cadet, Nicolas Fouquet doit devenir un homme d'église. Mais son frère aîné choisit de suivre cette voie et le sauve d'une carrière ecclésiastique. À 19 ans, le jeune Fouquet obtient une charge de conseiller au Parlement de Metz. Il enchaîne ensuite les postes importants, puis devient maître des requêtes. Il se fait des relations, obtient des protections qui vont lui servir dans sa carrière. À même pas 30 ans, le voilà intendant de justice à Grenoble. Révoqué pour s'être absenté sans autorisation, il revient rapidement en grâce après avoir calmé les ardeurs d'une révolte populaire à Valence, faisant au passage la démonstration de ses grandes qualités de négociateur. Nicolas Fouquet peut reprendre son ascension. Intendant d'armée de Catalogne, de Picardie, il enrichit son parcours d'expériences diverses à travers tout le pays. Aux questions fiscales, il ajoute des compétences en matière de finances et de droit. Fouquet est un fin tacticien. Il sait ménager la chèvre et le chou, flatter les uns, faire semblant de plier devant les autres. Mais au fond, il est déterminé. Surtout, Fouquet est un ambitieux. Il aime le pouvoir. En novembre 1650, il achète la charge de procureur général de Paris. Mazarin, qui a remplacé Richelieu à sa mort 8 ans plus tôt, est contraint à l'exil pendant la Fronde. Mais Fouquet, par l'intermédiaire de son frère, lui reste fidèle. Cette loyauté est récompensée au retour du ministre. En 1653, à 38 ans, le voilà nommé surintendant des finances par le cardinal. Grâce à ses nombreux talents, Fouquet est parvenu à se hisser à la place qu'il souhaitait, au sommet de l'État. S'il est un véritable défenseur de la monarchie, ses convictions ne l'empêchent pas de bénéficier largement des opportunités que lui offre sa position. Ses différentes charges et fonctions lui permettent d'accumuler rapidement une fortune considérable et confortable. Pour mettre du beurre dans ses épinards, Fouquet prélève des commissions sur à peu près toutes les activités qu'il chapeaute, quitte à s'arranger un peu avec la légalité. Le surintendant manipule la monnaie en circulation pour faire augmenter sa valeur. Il emprunte aussi de l'argent à un certain taux, avant de le prêter à des taux beaucoup plus élevés, bien que cela lui soit totalement interdit. En cela, Fouquet ne fait d'ailleurs qu'imiter son patron, Mazarin. Comme lui, il se fait aussi corsaire, ses idées bien sur les bateaux étrangers avant de les revendre. Mais aussi gros soit-il, ses revenus ne lui suffisent pas, ne lui suffisent plus. Car Fouquet dépense des sommes folles et accumule des dettes. Il achète des terres, des châteaux, des domaines et des moulins, notamment en Bretagne. Il acquiert la forteresse de Belle-Île-en-Mer et conçoit le projet fou de devenir propriétaire du Mont-Saint-Michel. Et puis, bien sûr, il y a Vaux. Pour ce domaine, situé à 50 km de Paris, Fouquet engage de prodigieuses dépenses. Il achète progressivement toutes les terres alentour, fait raser d'anciens châteaux, le village et les hameaux les plus proches, détourne une rivière et engage les plus grands. L'architecte Louis Levaux, le peintre Charles Lebrun et bien sûr André Le Nôtre, qui fera de ce parc sa première œuvre majeure. Fouquet aime les arts et les artistes. C'est un collectionneur qui commande ses tableaux directement à Rome et reçoit dans sa demeure de Saint-Mandé les plus grands noms du siècle. Corneille, Poussin, La Fontaine, Madame de Sévigné ou Perrault fréquentent son salon et bénéficient pour certains de ses généreuses rentes mensuelles. Sûr de sa réussite, le surintendant se voit déjà succéder à Mazarin au poste suprême de ministre principal de Louis XIV. Et justement, au mois de mars 1661, le cardinal rend son dernier soupir. Mais rien, absolument rien, ne va se passer selon les plans de Fouquet. Au cours de l'été de cette même année 1661, alors qu'il prépare pour Louis XIV la plus fabuleuse, la plus incroyable fête de tous les temps, le roi, lui, organise dans le plus grand secret la chute de son audacieux serviteur. L'écrivain Paul Morand a une phrase restée célèbre pour résumer la chute du surintendant. Le 17 août, à 6h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2h du matin, il n'était plus rien. Vaux ou le songe d'une nuit d'été. Si elle est belle, la formule n'est pas tout à fait vraie. En réalité, Louis XIV a pris la décision de renvoyer Fouquet plusieurs mois avant la fameuse fête. Aidé de son ministre Jean-Baptiste Colbert, le roi a accumulé les preuves et constitué un dossier. À cette époque, Louis XIV a 22 ans. Il n'est pas encore le roi soleil, mais un jeune souverain marqué par la fronde et soucieux d'affirmer son autorité. Et le monarque se sent abusé par ce personnage trop puissant qu'il soupçonne de détourner l'argent public. Avec la fête de Vaux, la rupture est consommée entre le roi et Fouquet. Alors, début septembre, Louis fait déplacer la cour à Nantes, prétextant son envie d'y présider les États de Bretagne. Il craint le peuple de Paris et préfère procéder à l'arrestation loin de la capitale. Le 5, au petit matin, c'est D'Artagnan, le vrai, le capitaine des mousquetaires chargé d'assurer la protection rapprochée du monarque, qui se charge d'intercepter Fouquet dans sa chaise à porteurs. Le procès du grand argentier s'ouvre au mois de mars de l'année suivante. C'est une procédure longue et éprouvante, marquée par les irrégularités. Les registres de l'épargne ont été truqués, les témoins ont fait l'objet de pressions. Colbert, qui déteste profondément Fouquet, s'acharne sur son sort. Il a placé ses amis parmi les juges. Depuis sa sellette, le petit siège bas destiné à humilier le prévenu, l'ancien surintendant se défend point par point avec panache. La cour, sensible à ses arguments, décide son bannissement du royaume quand il risquait la peine de mort. Mais le roi, craignant que Fouquet puisse livrer ses secrets aux puissances étrangères, transforme le verdict en une peine de prison à vie. Nicolas Fouquet passe donc les 15 dernières années de sa vie reclus, avant de mourir le 23 mars 1680 dans le vieux donjon des Alpes où il était enfermé. Comme dans une fable, sa triste fin illustre la vie d'un homme pour qui l'expression « folie des grandeurs » fut un jour inventée.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Nicolas Fouquet avec Jean-Luc Lemoine et Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien que l'on connaît bien et qui le connaît encore mieux. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour Stéphane.
Dans votre biographie de Nicolas Fouquet, Jean-Christian, vous montrez, comme je l'ai raconté, que c'était l'homme le plus riche du royaume, à la réussite si fulgurante que la confiance l'a finalement aveuglé. Comment vous définiriez son caractère ?
Ben, c'est un personnage de roman, d'abord. Alexandre Dumas ne s'y est pas trompé, puisqu'il en a fait le personnage quasi principal de la dernière partie de la trilogie des Trois Mousquetaires, le vicomte de Bragelonne. C'est un homme assez complexe, aux multiples facettes. C'est un séducteur, inventif, téméraire, nonchalant aussi, excellent orateur, bon juriste, qui a rendu de très grands services à la monarchie. C'est un grand serviteur de la monarchie, on l'oublie, de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Et en même temps, un homme intrigant, manipulateur, dévoré d'ambition.
Alors certains accaparateurs aussi. Enfin pardon, oui. Mais il s'est accaparé une grande partie du budget de l'État.
Oui, mais ça, il a fait.
Vous allez dire comme tant d'autres.
Voilà, il a participé au jeu financier de l'époque. Vous savez, un de ses prédécesseurs, le président de maison, qui a été disgracié en 1651, a eu ce mot en quittant son bureau. Ils ont tort. J'avais fait mes affaires et j'allais faire les leurs. c'est tout c'est dire.
Mais c'est-à-dire oui. Mais cela dit, il était dévoré d'ambition. Vous avez raison de le souligner. Il avait cet appétit féroce d'argent.
Oui, d'argent et surtout de pouvoir. C'est pas véritablement un homme d'argent. C'est un juriste, un homme de la monarchie administrative. On a voulu en faire un prince de la Renaissance. Et là, je pense qu'on se trompe complètement parce que
c'était un grand mécène aussi. C'est un amateur d'art et de littérature.
Ah, oui.
Je l'ai rappelé, il y avait tous les plus grands artistes tournaient autour de lui, étaient avant que Louis XIV ne les récupère pour Versailles.
Il avait un salon littéraire à Saint-Mandé qui était dans le prolongement de l'hôtel de Rambouillet où l'on cultivait une littérature, une poésie précieuse, maniérée. Et là, on y retrouvait Mademoiselle de Scudéry, Pélisson, La Fontaine, Madame de Sévigné, le poète Scarron, Molière, Corneille.
La Fontaine,
Madame Dupessis-Dellière, etc.
Ils étaient payés par Fouquet.
Alors, ils avaient des petites pensions, oui ils leur donnaient
donc,
des pensions.
Donc, en fait, il était le mécène de ces artistes avant même que Louis XIV ne leur demande ensuite.
Absolument, tout aussi un système de mécénat. Absolument, c'est un précurseur dans ce sens.
Jean-Luc ?
Oui, je voulais savoir, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi Louis XIV a considéré qu'il lui faisait de l'ombre ? Parce que le château de Vaux, c'était tout de même pas Versailles.
Non, c'est pas Versailles. Mais alors, Louis XIV a été impressionné quand même le 17 août 1661 quand il est venu sur la fameuse fête de Vaud dont parle Paul Morand. C'est par les jardins surtout. Parce qu'il n'avait pas de jardin, il avait les Tuileries, bon, c'était pas grand chose. Et là, les jardins organisés par le nôtre en particulier l'ont absolument ébloui. La grande gerbe qui jaillit dans les perspectives, les allées où jaillissent aussi des eaux. Tout cela est absolument extraordinaire et nouveau. C'est surtout cet art des jardins qui l'a fasciné.
Donc
et
alors,
il l'a rendu jaloux.
C'est une forme de jalousie féroce.
Mais tout avait été décidé, vous l'avez parfaitement dit, avant.
En 1661, c'est Jean-Baptiste Colbert qui finit de convaincre le roi de faire arrêter Fouquet. Qu'est-ce qui nourrit la haine du principal ministre de Louis XIV à l'égard de Fouquet? C'est de la rivalité? C'est une pure jalousie?
Oui, en grande partie. Jean-Baptiste Colbert a été l'intendant de Mazarin. Il a aidé Mazarin à reconstituer sa fortune après la Fronde, et donc en utilisant aussi des moyens moins que légaux. Il a fait une pression énorme avec Mazarin, d'ailleurs, sur le surintendant, pour avoir de l'argent, parce que il faut payer les troupes, sinon les troupes se débarrassent. On est en pleine guerre contre l'Espagne. Fouquet est obligé de trouver de l'argent comme il peut, auprès de ses clients. C'est un courtier, Fouquet, aussi. C'est pas seulement un ministre. Et Colbert est très jaloux. Il a une volonté, c'est d'introduire la maxime de l'ordre. Donc il faut remettre de l'ordre dans tout cela, chasser les traitants, les financiers qui utilisent des taux d'intérêt faramineux.
Alors soyons honnêtes, vous avez raison de le rappeler, Jean-Christian Petit-Fils, c'est que Fouquet n'est pas le premier à s'enrichir avec les finances publiques. Mazarin l'avait fait avant lui, il avait amassé une fortune colossale. Pourquoi on a choisi de faire tomber Nicolas Fouquet, lui, plutôt que les autres?
Alors, on l'a vu, c'est parce que c'est un rival très important de Colbert, qui veut devenir principal ministre. Il ne sera pas non plus, d'ailleurs, mais enfin, il sera très proche.
On peut rappeler que c'est Louis XIV qui a décidé de gouverner tout seul.
Voilà, exactement. Il faut un exemple. Et quel exemple que le surintendant, la chute du surintendant va fragiliser les financiers. Il a plus d'une centaine de clients financiers auxquels il fait appel en cas de nécessité, d'urgence. Parfois, il faut convoyer des chariots entiers d'or et d'argent pour payer les troupes.
Et Clémentine ?
Oui, finalement, ce qu'on comprend, c'est ce qui me paraît une information majeure dans cette histoire, c'est que ça n'est pas la fête du 17 août 1661 qui a entraîné la chute de Fouquet, même si le roi a vécu ça vraiment, ça a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais alors, autrement dit, à vous entendre, sans la fête, Fouquet aurait été arrêté de la même manière, jugé de la même manière.
Tout était préparé déjà. Tout était décidé. Deux étapes. Une première étape, le 5 mai, quand finalement Colbert a réussi à montrer, de façon un peu artificielle, que Fouquet continuait à emprunter à des taux usuraires. Ben oui, mais personne ne voulait prêter à l'État. Hein, donc, il était bien obligé. Bien. Donc, Fouquet sera arrêté, décide le Louis XIV. Et puis, il y a une deuxième étape à la mi-juin, quand un rapport est venu sur le bureau de Louis XIV de la part d'un cousin de Colbert, Colbert de Théron, qui était intendant à Brouage et qui avait envoyé une petite équipe d'espions déguisés en marchands de vin, un bateau qui aborde la citadelle de Belle-Île, donc propriété de Nicolas Fouquet. Et là, le rapport dit, mais attendez, il y a 400 canons qui arrivent, il y a 4 frégates qui ont été commandées à la Hollande. Fouquet constitue une place de sûreté pour, en cas où il serait disgracié, pour aller s'enfermer dans cette place. C'était la technique habituelle. Le comte d'Harcourt l'avait
donc
fait.
Donc vous voulez dire, là, Jean-Christian, qu'il avait, il avait imaginé un plan de défense si jamais il devait être arrêté. Alors, pourtant, on a le sentiment que Nicolas Fouquet était à milieu d'imaginer sa disgrâce.
Il a eu il a créé deux plans de défense. Un premier plan, puis il l'a rectifié à la suite quand il s'est brouillé avec son frère. Et ce plan de défense, jeté sur le papier de façon brouillonne, parce que les individus sont de temps en temps mobilisés à tel endroit, puis on les voit réapparaître à d'autres endroits. Et ce sont ses clients, ses amis, des maréchaux, des intendants, des évêques, qui doivent se mobiliser au cas où ils seraient arrêtés. Voilà l'idée.
Donc, il l'avait imaginé.
Ah, mais il l'a imaginé et il l'a écrit. Et alors, le malheur pour Fouquet, c'est que il allait finalement brûler ce document. Parce que ça dit, bon, c'est fini, Mazarin est mort, c'est terminé. Et au moment où il approche de ce papier de la chandelle, il y a un visiteur qui arrive. Alors, immédiatement, Fouquet le glisse sous son miroir et on retrouvera, au moment de son arrestation et au moment des visites à Saint-Mandé, on retrouvera le plan de Saint-Mandé qui le conduira à une condamnation très grave.
Lors de son procès, justement, Nicolas Fouquet a été condamné pour pécula, c'est-à-dire détournement de fonds publics, mais aussi pour crime de lèse-majesté. Qu'est-ce qui justifiait cette accusation de lèse-majesté?
Ça, c'est clair, c'est Belle-Île. Belle-Île qui, je vous dis, à la mi-juin, a rendu le roi fou furieux. Louis XIV dira, Nicolas Fouquet voulait se faire duc de Bretagne et maître des îles adjacentes. Donc, c'est l'idée que il est absolument insupportable qu'un sujet du roi puisse constituer une place de sûreté.
Jean-Luc,
est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que Fouquet a eu le tort de se croire plus puissant que le roi? Que finalement, c'est la puissance de l'argent qui l'a aveuglé.
Alors, pas tellement l'argent, le goût du pouvoir, oui. Le goût de s'imposer au roi, compte tenu de la clientèle qu'il s'était constituée, qui représentait à peu près la moitié de la cour. La moitié de la cour était pensionnée par Fouquet. Et ça, le roi n'a pas pu l'accepter.
Mais merci beaucoup, Jean-Christian Petit-Fils, de nous avoir raconté Nicolas Fouquet. La biographie que vous lui avez consacrée, Fouquet, est toujours disponible aux éditions Perrin. Et je précise que votre tout dernier livre, Le Saint-Suaire de Turin, vient de paraître aux éditions Talendier. Et il fait beaucoup parler aussi.
Merci.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Dans l'intimité de l'histoire.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine et celle qui nous raconte des histoires souvent lunaires, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lunaire, ça l'est d'autant plus cet après-midi parce que vous nous racontez que les Américains ont voulu carrément bombarder la Lune.
Mais oui, tout à fait. C'était très, très énervant. Imaginez, les Russes envoient Spoutnik dans l'espace. Alors, l'US Air Force fait immédiatement plancher ses ingénieurs sur le projet A-119. Donc, de quoi s'agit-il précisément? D'une méga opération de relations publiques, puisqu'il faut provoquer une explosion nucléaire sur la Lune. Mais en fait, l'idée, c'est de susciter un champignon atomique si grand qu'il sera visible depuis la Terre. Tout est là. On va montrer au monde qui a le plus gros champignon nucléaire. Alors, lancement du projet, En mai 58, un projet dirigé par un certain Leonard Riefel, qui on place à la tête d'une équipe de 10 personnes. C'est un physicien de premier plan, puisque quelques années plus tard, il deviendra le numéro 2 du programme Apollo à la NASA. Donc c'est un grand monsieur, mais pour l'heure, il est en charge du projet Explosion lunaire. Comment connaît-on cette histoire? Parce qu'un des jeunes astronomes de l'équipe, un certain Sagan, quand même, il était gratiné ce garçon, il travaillait sur ce projet top secret, et il a postulé pour avoir une bourse d'études à Berkeley, une université américaine, en 59. Il n'a pas pu s'empêcher de faire le malin et de dire qu'il avait participé au projet. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça se passe dans un labo basé à Chicago entre mai 58 et janvier 59. Et Riefel et son équipe extrapolent évidemment les effets probables de l'explosion nucléaire sur la Lune, y compris le comportement de la poussière, des gaz, et puis les différences d'effets visuels, puisque tout est là, puisqu'il faut vraiment montrer à la Terre qui a le plus gros champignon nucléaire. Est-ce qu'on va le faire du côté sombre de la Lune ou du côté clair? L'effet visuel ne sera pas du tout le même, évidemment. Alors, bien que le dispositif nucléaire spécifique n'ait jamais été divulgué, Riefel a affirmé par la suite qu'il était techniquement faisable d'atteindre la Lune à 3 ou 4 kilomètres près. C'est quand même balèze, hein. Et on aurait probablement utilisé un missile balistique intercontinental et une bombe atomique, parce que la bombe atomique est moins lourde, il faut le savoir, qu'une bombe à hydrogène pour un missile porteur. Bon. Alors, dans son rapport de 1959, Riefel listait les différents avantages scientifiques et militaires, ainsi que les avantages politiques du projet. On fournirait des informations majeures sur la capacité des armes nucléaires dans l'espace. Voilà qui permettrait d'entrevoir avec optimisme la future guerre des étoiles. Il fallait placer des instruments de mesure sur la surface de la Lune, et puis, à la faveur de l'explosion, on en apprendrait plus, bien sûr, sur la composition de la Lune et son environnement, et sur notre propre planète. Lorsqu'on a commencé à parler ouvertement de ce projet, c'est bien plus tard, c'était dans les années 90, les premiers reportages ont affirmé que si l'on avait fait ça, ça aurait fait exploser la Lune. Ah oui, ça aurait été... Ah, bah oui, pour un champignon nucléaire, ça aurait été tout à fait impressionnant.
Il n'y aurait plus de Lune.
Alors non, parce que Riefel, lui, a déclaré dans une interview assez récente, c'était en 2012, l'effet aurait été microscopique, cela aurait laissé un cratère quasiment invisible depuis la Terre, même avec un bon télescope. Ben oui, mais les matières radioactives auraient pu contaminer l'environnement lunaire vierge. C'est Riefel lui-même le soulignait dans son rapport. Si une telle contamination biologique de la Lune se produisait, cela représenterait un désastre scientifique sans précédent, éliminant plusieurs approches potentiellement très fructueuses des problèmes tels que l'histoire ancienne du système solaire, la composition chimique de la matière dans le passé lointain, l'origine de la vie sur Terre et la possibilité d'une vie extraterrestre. Bah, sans compter les impondérables. Imaginez que l'engin nucléaire explose prématurément dans l'atmosphère terrestre. Vous imaginez les retombées sur Terre de cette intéressante opération. Puis vous imaginez aussi la réaction de l'opinion mondiale. Vous imaginez un président américain s'adressant au monde en disant « Chers amis, nous allons faire une explosion sur la Lune ». Bon, en fin de compte, le projet A-119, nous le savons tous, a été abandonné, laissant Neil Armstrong et Buzz Aldrin graver leur nom dans les annales de l'histoire le 20 juillet 1969 en étant les premiers à marcher sur la Lune. C'était quand même un exploit inspirant et magnifique, réalisé au nom de l'humanité, tout autre chose qu'une explosion géante sur la Lune. Mais pour l'anecdote, en 99, Boris Chertok, le célèbre ingénieur russe des fusées, a dévoilé qu'en 58, les Soviétiques travaillaient sur un projet de bombardement sur la Lune qui ne s'appelait non pas le projet A-119 mais projet E-4. Et pourquoi y ont-ils renoncé? Parce qu'ils ont réalisé que le flash de leur explosion nucléaire à la surface de la Lune ne durerait pas assez longtemps pour être filmé et que donc l'effet médiatique mondial aurait été assez médiocre, que ça valait pas la peine. Par chance pour nous tous, le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 67 entre les États-Unis et les Soviétiques, entre autres, interdit le placement d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive dans l'espace et limite l'utilisation de la Lune aux seuls efforts pacifiques. Ouf, on l'a quand même échappé belle.
On a eu chaud. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien.
C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est le quiz Bern to be alive.
Europe 1, historiquement vôtre.
Tous les après-midi, je me dis qu'on est peu de choses. Hein. Des années que je me passionne pour l'histoire, pour les personnages les plus illustres. Et sur Europe 1, dans ce quiz soi-disant historique, on me pose des questions sur le musée du Phallus. Les bras m'en tombent, franchement.
Oui, bah, bon, je vous le ramasserai plus tard, Stéphane. Pour le moment, on va jouer à Bern to be alive.
Si vous voulez.
Et avouez que en société, c'est bien pratique de connaître le musée du Phallus.
Ah oui.
Non,
oui, c'est vrai. Pas.
Une première question pour Stéphane. On va commencer ce quiz en prenant de la hauteur. Évoquons deux divinités des arts. D'un côté, Pablo Picasso. Vous connaissez ?
Oui.
Vaguement ?
Enfin, j'ai vu ses œuvres, je n'en ai pas personnellement.
Dites la vérité. Et de l'autre, Mick Jagger. Oui. Voici la question. Lequel des deux a été en couple avec la plus grosse différence d'âge ?
Ah là là là.
Ah oui, c'est dur.
Parce que je crois que Mick Jagger a été père en même temps que son fils l'a été. Il est, son petit-fils a eu le même âge que son fils. Moi, je dirais Mick Jagger.
Vous dites Mick Jagger. On vérifie. Ouais.
Vous avez perdu.
Non, c'était Picasso. Et pourtant, Mick Jagger, vous aviez raison, il a fait un enfant et une ballerine, enfin, oui, pas la chaussure, la danseuse. 43 ans de différence. Elle avait 27 ans au moment où ils se sont mis ensemble.
Et lui, 70.
Mais oui. Pablo et Jacqueline Rock, c'est 45 ans de différence.
Ah là là, 45 ans. Bah, je trouve qu'ils ne faisaient pas 45 ans de différence, non ?
Oui, ils se portaient bien. Et elle avait aussi 27 ans, mais Pablo, lui, en avait 72. Et quand Jacqueline parlait de Pablo, elle disait « On ne fait pas d'ombre à un soleil ».
C'est beau
hein. Ouais.
Moi j'aurais dit plutôt faut de l'ombre pour le pépé, oui.
C'est moins romantique, mais je préfère aussi. Une question pour vous justement, Clémentine. 2003, château de Windsor. Feu la reine Elisabeth II est contrariée. Elle reçoit en visite officielle le président américain George Bush. Leur entrevue a été écourtée de 2 heures, car la reine a mal pris ce qui était pour George un compliment. Il lui a dit qu'il avait peint son portrait et qu'à sa prochaine visite, il apporterait son œuvre. Vrai ou faux ?
Alors, George Bush peint, mais je ne sache pas qu'il peigne des portraits. Il peint essentiellement des chiens.
Ah bah, peut-être c'était
alors,
les corgis,
il avait peut-être plutôt peint un des chiens de la reine. Non, je ne pense pas que George Bush se soit lancé dans une tentative de portrait de la reine. Non, non, c'est non votre histoire. Non,
c'est non, non. Sinon, non, non. On aura un petit peu moins de dédain, s'il vous plaît, hein, madame Portier-Kaltenbach. Respectez-moi, s'il vous plaît, je suis fragile. On écoute la réponse.
Vous avez gagné.
Non, vous avez perdu, parce qu'avec votre insolence, je vous enlève le point.
Non, me dites donc,
non,
là,
je voudrais
quand même pas prendre ce genre d'habitude. Hein.
Oh bah si, si vous allez apprendre à bien me parler. Alors c'est faux. C'est faux. Par contre, Elisabeth II était vraiment contrariée de recevoir George Bush, mais savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'il lui a fait rater un épisode de sa série préférée, Coronation Street. Et finalement, une belle âme lui a enregistré l'épisode sur une VHS. Donc tout est bien qui finit bien.
Ah.
En tout cas, vous êtes à égalité puisque vous avez été insolente. Une question pour Stéphane. On va rester sur George Bush, Stéphane.
Ah oui.
Enfin, façon de parler. L'ancien président des États-Unis a donc une passion dévorante, on l'a évoqué, la peinture. Il a déclaré avoir peint Poutine parce qu'il s'était moqué de son chien. Vrai ou faux ?
Il a peint Poutine parce qu'il s'était moqué sur les chiens.
Poutine n'est pas homme à se moquer des chiens. Il est plutôt homme, non, poser avec un gros berger allemand.
J'irais non. Parce
non,
que
non c'est George Bush hein, qui a peint.
Contraire, je ne pense pas qu'il peigne justement les portraits.
Il a dû peindre le chien de Poutine, vous ne croyez pas ?
Oui.
Stéphane, non, je dirais c'est plutôt non. Ça.
Vous dites non,
non.
Oui. Toujours cet instinct qui vous guide.
Oui, mais j'ai un flair très imparable.
On va quand même vérifier parce
non,
que c'est un cas
d'école. Non, ok, je dis oui.
Vous dites oui.
Il a peint Poutine parce que Poutine avait dit et ça lui a pas plu sur son chien qui était un chien très laid.
Mais vous êtes polyglotte en fait. Vous parlez très bien le russe.
Non mais
ok, on écoute la réponse.
Vous savez.
Avec
un instinct magnifique, franchement. George Bush a déclaré qu'il avait eu l'idée de peindre Poutine parce qu'il s'était vanté d'avoir un plus gros chien que lui et que cette remarque en disait long sur la personnalité du président russe. Une question pour Clémentine. Elle fut princesse phénicienne, première reine de Carthage. Elle a, selon la légende...
Salambo,
bravo. C'était pas du tout la question. Cette princesse a été brûlée pour avoir refusé de se marier avec Iarbas. Fille de Bélos, sœur de Pygmalion, quel est son nom ?
Alors, ça n'est pas Salambeau.
Non, ce n'est pas Salambeau. Est-ce que vous voulez des propositions
oui,
ou est-ce que vous voulez
bien,
faire la Maline?
Oui. Je voulais faire la Maline, mais c'est raté.
Alors, je vous propose Hébé, Didon.
Ah, Didon.
Alors, ou on s'embête pas.
Bon, alors c'est Didon ou Hébé.
Hébé, Didon, alors on s'embête
alors,
pas.
Alors attendez, Didon vient et
qu'est-ce que tu fais, Doudou, Didon?
Non, Didon, elle vient de Troyes, me semble-t-il. Didon, mais redites-moi la caractéristique de votre princesse.
C'est la fille de Bélos, sœur de Pygmalion.
Et
première reine de Carthage.
Eh ben, c'est Didon.
C'est Didon.
Je pense que c'est Didon.
On vérifie.
Vous avez gagné.
Là, on s'incline. C'était magnifique.
Oui, c'était magnifique.
La légende de Didon a été reprise par Virgile dans son œuvre Énéide. Voilà le genre de phrase qui, à peine prononcée, est aussitôt oubliée.
Il faut relire Virgile.
Oui, c'est ça. Il faut que j'y retourne. Notamment le Virgile Megastore. Alors, la question qui va vous départager, mes amis. Je suis tombé dernièrement sur une carte des temps de parcours. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait un Paris-Cherbourg en 3h46 en train. Stéphane, on devait être privé, vous me disiez qu'il fallait compter comme 1h12.
Non, je l'ai fait en 4h et c'est long.
C'est long. Mais en 1882, par chemin de fer, le voyage durait combien de temps? Évidemment, c'est celui qui sera le plus proche.
1882
en par chemin de fer.
Je dirais 20 heures.
20 heures pour Clémentine, pour aller à Cherbourg.
Moi, je dirais 10 heures.
Écoutez, il y a quelqu'un qui est à une demi-heure près. C'est Stéphane. C'est 10h30
oh,
le trajet Paris-Cherbourg.
Ah, je pensais que le train lambinait bien plus que ça.
Alors, ce temps est issu d'une carte appelée carte des communications rapides. Elle date de 1882. Et vous aviez dit 20h, il y avait un Nice-Paris qui faisait 23h30. Mm-hmm. Et la carte était signée d'un certain Martin, qu'on recherche activement.
Merci de cette information. 10h30 pour aller à Cherbourg. Eh bien écoutez, moi je suis fier de nos aïeux qui avaient déjà réussi à...
Eh bien moi je suis fier de vous, c'était un très beau match.
Merci
victoire de
beaucoup.
Stéphane.
Ouais.
Merci
okay.
Clémentine, à
d'accord,
demain.
Hein. Non, j'aimerais pas demain.
Elle est chafouin.
Oui.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successors of the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Et évidemment, je ne suis pas seul. Ils sont trois, ils sont avec moi.
Oui, ah oui, on est là.
Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez est notre chroniqueuse de la mode et à la mode qui nous rejoint aujourd'hui, Yvan Jacob. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Et c'est bien pour cela qu'on les réunit cet après-midi, nos trois personnages du jour qui ont la folie des grandeurs. Après Nicolas Fouquet, le grand argentier du roi, je vous raconte Paul Poiret, le grand couturier qui a vu grand, très grand, trop grand quand même. Hein. Quant à vous, Jean-Luc Lemoine, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, le vivant de l'étape qui lui voit très grand aussi. Hein.
Ah, il voit grand, il voit haut aussi. Il s'appelle Mukesh Ambani. C'est un milliardaire indien qui ne sait plus trop quoi faire de son argent apparemment. Je lui ai bien demandé de m'en donner, mais il a préféré faire construire une maison de 27 étages et investir dans la 5G aussi. Enfin, j'ai dit ok, sympa. Je vous raconte quand même son destin tout à l'heure, je ne suis pas rancunier.
Ça sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, deux chroniqueurs qui voient les choses en grand, eux aussi. Yvan Jacob, dans Mes aïeux, quelle époque, vous nous ramenez aujourd'hui dès le 14e siècle pour découvrir la braguette. Mais c'est une drôle de braguette quand même, elle était très imposante.
C'est ça, c'est une époque où les hommes voient grand, y compris au niveau de la braguette, avec des braguettes en relief très proéminentes et très loin de la fermeture éclair qu'on connaît aujourd'hui.
C'était quoi cette petite gourmandise? C'était très bizarre.
Non mais c'est pas ça, c'est que je pensais aux portraits. Vous savez, on voit des portraits de cette époque et on voit des trucs énormes en fait.
On pensait
mais,
tout ça.
Mais tout ça, c'est du bluff. Surprise.
Oh dommage.
Et vous David Castello-Lopez, ça vous fait rêver. Vous nous racontez les origines d'une boisson.
Exactement.
Mais qui est très liée, enfin je sais pas, à votre enfance, moi la mienne.
Oui. On le boit un peu moins à l'âge adulte. C'est le Fanta.
Donc ça existe toujours.
Ça existe toujours. J'en ai bu hier et je vous en ai apporté aussi. Donc vous allez pouvoir en boire.
Ah, merci. Ouais. Rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Il est le premier des grands couturiers, celui qui, avant tout le monde, a compris l'importance de l'image et de la communication dans la mode. Et pour devenir le plus grand, il a mis en œuvre les moyens les plus extravagants. Je vous raconte maintenant le grand couturier qui avait la folie des grandeurs, normal, c'était son métier, Paul Poiret. Nous sommes le 24 juin 1911. Près de 300 personnes foulent avec joie ce soir-là la cour couverte de sable de l'hôtel particulier de Paul Poiret au 107 de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Sous un voile bleu et or, les invités triés sur le volet, des artistes, des peintres, quelques princesses et autres dandies aristocrates, évoluent au milieu des fontaines en porcelaine, des tapis et des coussins de brocart au rythme du chant des oiseaux exotiques. Des conteurs et des acrobates réjouissent les convives. Soudain, le maître des lieux apparaît. Habillé en grand sultan, il vient délivrer son épouse de l'immense cage dorée qui la retient prisonnière. Denise porte un turban orné d'une pierre turquoise sertie sur une monture en or et surmontée de plumes d'aigrettes blanches. Tout ce soir est grandiose, si grandiose que désormais Paul Poiret sera surnommé le Magnifique. Organisé pour le lancement de sa collection inspirée de l'Orient, cette féerie baptisée la 1002e nuit marque l'apogée de la vie du couturier. Paul-Henri Poiret est né 32 ans plus tôt, en 1879 à Paris, dans une famille de drapiers des Halles. Enfant, le petit Paul passe des heures à dessiner. À 19 ans, dans les dernières années du 19e siècle, il devient l'assistant du couturier Jacques Doucet, chez qui il apprend, en plus de la couture, l'art délicat de servir les comédiennes et leurs demandes les plus farfelues. En 1901, Paul Poiret est engagé chez Charles Frédéric Woerth avec pour mission de rajeunir la maison inventrice de la haute couture. Il y reste quelques années, crée des robes plus simples et plus pratiques et un manteau aux allures de kimono brodé de motifs orientaux. Le style Poiret est né. Dès 1904, Paul fonde sa propre maison qui porte donc son nom. Trois ans plus tard, pour le baptême de leur fille Rosine, Denise Poiret porte une robe fourreau ceinturée sous la poitrine. Le fond de la robe est certes baleiné pour maintenir le buste, mais elle se porte sans corset. Influencé par la période du Directoire, Poiret dessine des silhouettes droites, dont le point d'appui n'est plus la taille, mais l'épaule. C'est un changement radical par rapport à la silhouette en S qui marque la mode des années précédentes. Le premier soutien-gorge, apparu un peu plus tôt, permet de mener cette petite révolution. Avec leurs lignes fluides, les vêtements de Paul Poiret semblent annoncer avec une décennie d'avance les petites robes des années folles. Sa palette de couleurs, d'audacieux mélanges de violet et de rouge, de vert et d'orange, de bleus électriques, tranchent aussi avec les couleurs un peu ternes de la belle époque. En deux ou trois saisons à peine, c'est toute la mode parisienne qui se met au diapason du style Poiret. Mais le créateur ne révolutionne pas que les vêtements, pour une raison simple. Paul Poiret a compris que la mode, ce ne sont pas que des habits. Dans les années 1910, il est le premier à lancer un parfum avec une société baptisée du nom de sa fille, les Parfums de Rosine. Les ateliers Martine, du nom d'une autre de ses filles, développent quant à eux des papiers peints et des tissus imprimés. Poiret fait entrer l'art dans la mode en collaborant avec des illustrateurs d'immenses talents comme Georges Lepape et Paul Iribe et le peintre Raoul Dufy. Avec eux, il crée des albums figurant ses créations qu'il envoie à ses clientes comme un catalogue commercial. Poiret est également précurseur dans sa façon de présenter ses collections. Il fait porter ses modèles à des mannequins, à Paris et dans beaucoup de capitales européennes. Des défilés promis un bel avenir dans le monde de la mode. Premier couturier superstar, Paul Poiret met en scène son propre travail dans des conférences publiques durant lesquelles il choisit une femme dans le public et crée pour elle une robe en direct. Avant lui, les couturiers étaient comme des fournisseurs répondant aux demandes de leurs riches clientes. Mais Paul Poiret est un artiste avec une vraie identité. Il est celui qui participe à libérer la femme du corset et propose des collections inspirées d'un thème qu'il a lui-même défini selon son inspiration. Les années 1910 dans l'histoire de la mode sont définitivement celles de Poiret. Génie du marketing, le créateur n'en est pas pour autant un bon gestionnaire, loin de là. Un an après sa première grande soirée, il en organise une autre, les Festes de Bacchus, où s'écoulent en quelques heures 900 litres de champagne. Poiret ne lésine jamais sur les moyens. D'ailleurs, pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, Paul Poiret a une idée. crée un événement grandiose à l'écart des autres créateurs. Sur la scène, il arrime trois péniches, l'une dédiée à la décoration, l'autre à la mode, et la troisième abritant aussi un restaurant au parfum. Le couturier a engagé des sommes folles dans ce projet sur ses deniers personnels pour un résultat qui ne lui rapporte rien de ce qu'il avait espéré. Mais il y a plus grave. En ces années 1920, après la guerre, la femme n'a plus envie des turqueries de Poiré. Le style du créateur est démodé par les créations simples, noires et terriblement modernes d'une femme, Mademoiselle Gabrielle Chanel. Et ce qui se dessinait arriva. En 1929, complètement ruiné, Paul Poiré est contraint de fermer boutique. Il reste pourtant incroyablement novateur en dessinant dès 1933 des collections de prêt-à-porter pour un grand magasin parisien, Le Printemps. Poiré profite également de cette retraite pour écrire ses mémoires. Pour leur rédaction, il signe un contrat avec une maison d'édition et demande une petite avance à son éditeur. Mais à peine sorti des bureaux de la maison d'édition, il dépense les trois quarts de la somme en un seul déjeuner dans un luxueux restaurant. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Poiré quitte Paris. On le voit en terrasse, invectivant tout le monde, disant qu'il ira voir Pétain pour lui dire ses quatre vérités, qu'il ne fait que des bêtises. Le couturier disparaît le 30 avril 1944, sans avoir connu la libération, dans la misère d'une chambre de bonne. À lui seul, par son sens grandiose de la mise en scène, Paul Poiré a défini pour les décennies à venir la figure du grand couturier qui voit toujours grand, et parfois même un peu trop grand.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Paul Poiré, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui conserve les magnifiques pièces de couture qu'il nous a léguées au Musée de la Mode, le Palais Galliera à Paris. Laurent Cottard.
Bonjour.
Laurent, quelles sont les pièces les plus iconiques de Paul Poiré que vous avez dans les collections du musée ?
Ah, les pièces les plus iconiques, vous les avez citées. Je mens un petit peu, en fait. C'est le manteau révérend qu'il crée en 1905, qui est un vêtement complètement à plat, vraiment tout à fait nouveau, enfin qui reprend la forme d'un kimono, et qui n'a strictement rien à voir avec ce que produit la mode à ce moment-là. Autre pièce que je trouve extrêmement importante, ce sont les deux tenues que Paul Poiret et sa femme portent pour les fêtes de Bacchus, et qui montrent mais un humour et un sens de l'autodérision absolument considérable. La robe sésostrice de 1923, qui, comme son nom l'indique, n'est strictement rien d'égyptien.
Ah oui.
Ah non, mais strictement rien. Ça ressemble vraiment beaucoup à un vêtement entre la Chine et une inspiration mandchou, mais ça n'a rien d'égyptien. Il y a une chose que j'aime tout particulièrement, c'est le petit carnet de croquis qui prépare l'édition des robes de Paul Poiret, pardon, racontée par Paul Irib. Et c'est un croquis où on voit les mains de Paul Irib et de Paul Poiret, et on voit vraiment le dialogue et la façon dont ce volume tellement important dans l'histoire de la mode a été créé.
Entre les catalogues commerciaux, les défilés de mode, la figure du créateur et non plus du simple fournisseur, Paul Poiret, c'est véritablement le couturier qui a fait entrer la mode dans la modernité. Il a vu plus grand que les autres de son temps, à la même époque ?
Alors, il a vu plus grand que les autres, pas forcément, mais il a vu quelque chose de très très nouveau, c'est le pouvoir de l'image et le pouvoir de la communication. Alors, son image, il se la crée, déjà la sienne propre. C'est un personnage tout à fait flamboyant, ou en couleur, avec un ego surdimensionné, mais comme beaucoup d'artistes, c'est pratiquement un outil de travail. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui a envie de créer une image de marque. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Toute l'image qu'il développe autour de sa maison, c'est quelque chose qui va rester, qui va être pérenne, à tel point que les robes de Paul Poiret par Paul Irib, réalisées en 1908, c'est vraiment la synthèse absolue du style des années 10.
Ivan,
est-ce que c'est le premier, par ses choix de couleurs et de matières, à avoir vraiment apporté du fun dans la mode et de l'humour ?
Du fun et de l'humour dans la mode, pas nécessairement, parce qu'on peut avoir des maisons de couture, des très très grandes maisons de couture, comme la maison Vorte, la maison Doucet, pour lesquelles il a travaillé, qui réalisait ce qu'on appelle des travestis. Hein. Il s'agit de déguisements, en fait, de déguisements de grand luxe pour des fêtes, où là on peut avoir vraiment beaucoup d'humour. Mais ce qui est très nouveau chez lui, c'est les couleurs, les rapports de couleurs qu'il va. En fait, on est à l'époque du fauvisme. et on est très très proche de ces couleurs très dissonantes, souvent très fortes, très. Et il joue aussi sur le bon goût et le mauvais goût, hein, en associant des couleurs qui logiquement ne devraient pas aller ensemble.
Oui. Jean-Luc,
Stéphane l'a dit, Paul Poiret a cassé les codes. Il était transgressif, un peu rebelle aussi. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça a pu faire scandale? Parce que quand on bouleverse tout ça. Ça peut aussi causer des problèmes.
Alors ça fait scandale, bah pour deux raisons, mais les scandales sont orchestrés, ça fait partie de la communication de la maison et de la communication de Paul Poiret tout court. Ça fait scandale encore une fois pour l'imagerie qu'il crée, parce qu'il est très très influencé par ce qui se passe en Allemagne et en Autriche à la même époque. C'est pas très bien vu en France, hein. Être d'avant-garde en France, c'est déjà pas terrible. C'est une société assez conservatrice en fait avant la guerre de 1914, mais surtout si on prend ses inspirations d'avant-garde chez l'ennemi. En fait, chez les Allemands, les Autrichiens sont pas des ennemis, mais ça va le devenir. C'est très mal vu. Tout ce qui est un peu nouveau, un peu trop nouveau, est considéré. Enfin, je cite ce qu'on dit à l'époque. On considère que c'est de l'art boche. Et c'est comme ça qu'on doit. Mais en même temps, on a envie de nouveauté. Et puis cette nouveauté, ce pavé dans la mare que constitue l'arrivée de Paul Poiret dans la mode. Parce que quelque chose qui est attendu et qui est quand même très très bien accueilli. Mais il est transgressif aussi socialement. Parce que là, c'est très nouveau. Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane, en disant que c'était un fournisseur qui invite, pas les têtes couronnées, il faut pas exagérer, mais qui invite la très très haute société, la haute aristocratie. C'est quelque chose qui est absolument inenvisageable avant.
Avant, il entrait par la porte des fournisseurs chez eux. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est lui qui les invite. Et donc, c'est le monde à l'envers, en quelque sorte.
Voilà, c'est un prince de la Renaissance. C'est pour ça qu'on l'appelle le magnifique, comme Laurent.
Ivan.
On présente souvent Paul Poiret comme celui qui a libéré les femmes du corset, mais pour se libérer du corset, il avait fallu qu'une femme, auparavant, invente le soutien-gorge.
Voilà.
Donc alors, il faut nuancer, c'est ça?
Bah oui, il faut nuancer, mais alors tout le temps. Hein, mais tout le temps, vous n'avez pas idée. L'histoire de la mode, c'est contes et légendes. Enfin bon, quand on parle de storytelling maintenant, c'est pas nouveau, non. Mais bon, il y a une libération de la femme à ce moment-là. Quelque chose qu'on retrouve aussi avec Madeleine Vionnet, exactement à la même époque, dans la maison Doucet pour laquelle elle travaille. Elle supprime le corset, elle supprime même les chaussures pour des défilés. Donc vous voyez que la libération du corps de la femme, c'est vraiment dans l'air du temps. Et puis bon, alors la libération du corps de la femme, 2 ans après la suppression du corset avec les robes entravées, où on peut pas faire de... Enfin, on fait des pas très, très, très réduits.
Oui, les robes entravées, c'est en bas, en fait, les femmes ne peuvent pas marcher.
Enfin, on a une amplitude de pas qui est de rien. Donc c'est plutôt faire une nouvelle silhouette, une silhouette qui est flatteuse, qui est belle. Mais je crois que la libération du corps des femmes est peut-être pas tout à fait sa priorité.
La chute de Paul Poiret, il la doit finalement davantage à ses dépenses extravagantes ou à son style qui n'a pas su renouveler?
Moi, je parlerais plutôt des dépenses extravagantes et puis d'une prodigalité absolue, en fait, chez Paul Poiret. Très tôt, hein, même avant la guerre, il fait des investissements considérables. Après, il hypothèque, il revend sa voiture, enfin, des choses de cet ordre-là, mais autour de 1911-1913. Et puis, il refait d'autres investissements. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, bon, après la publication d'un ouvrage, à un moment où il est vraiment dans une situation financière assez déplorable, il va dépenser tout de manière très, très flamboyante dans un restaurant de grand luxe. Donc non, son style passe, enfin sa mode passe, parce qu'il s'agit plus de mode que de style. On parlera de style plus pour Jean Patou et pour Gabriel Chanel que vous avez cité et qui finissent par faire pâlir l'étoile de Paul Poiret. Mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et cette mode très spectaculaire, très théâtrale, elle reste encore très 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 appréciée de tout le monde. Non, mais c'est plutôt les investissements, cette générosité, puis ce goût de flamber, en fait.
Merci beaucoup, Laurent Cotta.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes conservateur au Palais Galliera, où l'on peut actuellement visiter d'ailleurs une très belle exposition. Je vous le dis, c'est Frida Kahlo, au-delà des apparences dont on a parlé déjà ici même. Je précise par ailleurs que les mémoires de Paul Poiret en habillant l'époque ont été rééditées cette année chez Grasset. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Ivan Jacob, on réunit des personnages qui ont la folie des grandeurs. Après Nicolas Fouquet et Paul Poiret, vous nous racontez, Jean-Luc, un milliardaire indien qui voit tout en grand lui aussi, Mukesh Ambani.
Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, Stéphane, ça, on le sait. Ah, non, mais non, Stéphane est parti prendre l'air.
Si vous n'avez pas le bonheur, rendez-le.
C'est ça. Stéphane est sorti un moment du studio. J'ai dû le choquer. Non, la folie des grandeurs.
Oh, si j'étais riche.
Alors, oubliez tout ce qui a été dit jusqu'à présent à niveau folie des grandeurs. J'ai trouvé le champion des champions. Si je mettais mon personnage sur un ring face à Nicolas Fouquet ou Paul Poiret, voilà ce qui se passerait.
Oula! Mec, j'ai jamais vu un chaos aussi expéditif. Un combat qui a duré moins de 10 secondes.
Ouais, ouais, non mais je vais vous parler de Mukesh Ambani qui s'est fait construire une petite bicoque à Mumbai. Pas grand chose, 27 étages. Et ce, pour une somme comprise, selon les sources, entre 1 et 2 milliards de dollars.
Mais ça laisse de la marge.
Bah, des milliards.
Milliards de dollars. Essaye de la vendre celle-là, Stéphane Plaza. Mukesh Ambani, vous connaissez?
Non.
Mais si, le président de Reliance Industries, un conglomérat de textiles et d'énergie.
Ah non.
Non? Mais monument du capitalisme indien, il détient le plus grand complexe de raffinage de pétrole au monde. Non?
Non plus.
Non? Toujours pas? Le seul patron qui a compris l'intérêt de passer de l'industrie lourde aux data, le pétrole du futur selon le monde.
Ah, je...
Non? Vous voulez pas?
Toujours pas, non?
Bon. Le mec blindé, indien, qui a une bonne tête et qui s'est payé Beyoncé au mariage de sa fille.
Ah oui, oui.
Ouais, j'aurais dû commencer par là, visiblement. Je pensais que vous étiez plus calé en business. Mukesh Ambani, multimilliardaire, soit l'homme le plus riche d'Inde et d'Asie, et accessoirement celui qui est 4 fois plus riche que la 2e personne la plus riche d'Inde. Ça vous situe le niveau.
Ouais.
À côté de lui, les Rothschild sont des prolos, les Kardashians sont des ploucs, et Stéphane Bern est un sans-dents. Pas d'offense, Stéphane. Je me suis penché sur sa vie, son parcours, son intimité. C'est bien simple, je n'ai trouvé que des chiffres. Sa vie est un amas de chiffres qui varie de source en source. Sa fortune serait estimée à 94,3 milliards de dollars. Bien que l'info soit contredite par une bonne dizaine de sites, notamment sur la page de votresalaire.fr. Selon ce site, son salaire annuel serait de 6 milliards 100 millions. Ce qui nous fait un salaire mensuel de 509 millions d'euros.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est exactement quand même. Oui, Mukesh Ambani est un homme qui gagne 2 super cagnottes de l'euro million par mois. Son histoire? Une success story poignante et traditionnelle. En 1960, à partir de rien, son père crée une société de textiles dans une petite pièce qui fait la taille d'un placard. La famille d'ailleurs ne vit pas dans beaucoup plus grand. Mukesh, lui, a deux passions, le hockey et le foot. Il est respectivement bof et bof dans ces deux disciplines. Lucide, il décide finalement d'obtenir un diplôme de chimie et de rejoindre l'entreprise de papa. Entreprise qu'il réoriente vers la fibre synthétique. Ça veut dire quoi? J'en sais absolument rien, mais qui va devenir riche, de toute évidence, vu que je vous ai spoilé la fin de l'histoire. En 2002, son père meurt. Là, Mukesh et son frère cadet, Anil, se tirent la bourre pour reprendre les rênes de l'entreprise comme deux pitbulls face à un rôti froid. C'est la guerre.
Mon frère, oh, mon frère.
Maman s'en mêle, arbitre les chamailleries, leur file deux claques, et tranche en faveur de Mukesh qui va piloter la majorité de Reliance, l'entreprise familiale. Aujourd'hui, il est classé 11e fortune du monde selon le classement de Bloomberg. Loser. Non, 11e, ça fait mal, hein. Il était à ça de rentrer dans le top 10. Comment ça doit chagriner, hein? Arrivons enfin à cette bâtisse de 27 étages et 165 mètres de hauteur que Mukesh s'est fait construire à Mumbai. Alors je sais ce que vous dites, Stéphane. Oh, je le plains, ça doit être un enfer pour laver les vitres. Ne le plaignez pas. Non, ne le plaignez pas si vite. Écoutez plutôt, c'est un délire. 37 000 mètres carrés au sol, soit une superficie équivalente au château de Versailles. Pour aller aux toilettes, faut prendre le métro. Et c'est pas tout. 29 chambres. Ouais, c'est un peu mesquin pour une maison de 27 étages, on est d'accord. 3 piscines normales. Enfin, normales pour un milliardaire indien. Plus une piscine olympique. 3 héliports. Pratique quand tu reçois et que tous les hélicoptères arrivent en même temps. Un étage hôpital, un cinéma, un théâtre. Pendant le Covid, quand on lui dit qu'il fallait rester chez soi, il a dit « Rien à foutre, je vous attends hein. ». Des salles de bal, un jardin sur 3 étages. En fait, une vraie ville verticale. Un parking de 6 étages pour y fourrer Bentley, Rolls, Porsche Cayenne et une salle de neige.
Quoi ça?
Vous connaissez pas la salle de neige?
Non, c'est
quoi? Stéphane, mais quel gueux. Une pièce où la famille échappe à la chaleur indienne et se ressource sous des flocons de neige artificiels qui tombent 24 heures sur 24. La salle Christophe Galtier, disent les écolos à l'Assemblée. Un concept éco-moyen responsable. Quoi qu'il en soit, la DAS est formelle. Élever ses enfants chez Mukesh est fortement déconseillé. Tu risques de jamais les retrouver. Pour dépoussiérer et entretenir cette cabane, qui a nécessité 7 ans de travaux, 600 employés permanents. Chef cuistot, homme et femme de ménage, jardinier, serveur, moniteur de fitness et bien évidemment, service de sécurité. Nita, l'épouse du milliardaire, dit vouloir donner à leurs 3 enfants une éducation humble et modeste. Bah t'as raison Nita, hein. Quand t'as une piste de ski hein, dans ton immeuble, c'est sûr que t'as une perception assez juste de la vie. Quand Mukesh n'investit pas dans la pierre, il organise des teufs. En l'occurrence, le mariage de sa fille, c'est celle qui a reçu, je rappelle, une éducation humble et modeste. L'événement aurait coûté autour de 100 millions de dollars, selon la rumeur. Ouais, mais c'est le prix d'un mariage, si on veut que ça ressemble à quelque chose. Sinon, dans 4 mariages pour une lune de miel, tu te retrouves avec ce genre de commentaires.
Excusez-moi, ton mariage au dessert, c'était une fête foraine. C'était même plus un mariage.
Là, la fête foraine, ils avaient quand même Hillary Clinton ou Beyoncé. Ouais. On est tous pareils, hein. Un certain montant, on est prêt à traverser le monde pour bouffer de la pièce montée. Le nouveau défi de Mukesh, vous le connaissez, il va investir 25 milliards de dollars pour équiper l'Inde d'un réseau 5G qui deviendra à terme, je cite, le plus grand réseau du monde. Eh ben bravo Mukesh, ça c'est un bon sens des priorités. La couverture mobile de l'Inde en 5G, où seulement 32% des foyers ont accès à l'eau traitée. Au moins, ils auront du réseau pour pouvoir se plaindre.
Merci Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir nos personnages qui ont la folie des grandeurs pour retrouver deux chroniqueurs beaucoup plus modérés. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un soda orange qui ne date pas d'hier. Hein.
Oui, le Fanta.
Mais avant ça, comme chaque jour désormais, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle mode avec notre nouvelle journaliste à la mode, Ivan Jacob. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au 14e siècle pour découvrir l'ancêtre de la braguette, une partie du vêtement qui prend aujourd'hui la forme d'une petite fermeture éclair élégamment dissimulée sur le devant du pantalon, mais qui n'a pas toujours été aussi discrète, Ivan.
Eh oui, la braguette a une histoire très ancienne. À l'origine, c'est même un accessoire à part entière de la tenue masculine. Et pour bien le comprendre, il faut remonter effectivement au XIVe siècle. Jusque-là, les femmes comme les hommes portent des robes longues, assez similaires, mais une nouvelle tendance s'apprête à bouleverser la mode pour les siècles à venir. Alors on est en pleine guerre de 100 ans, il y a des soldats un peu partout, et les jeunes damoiseaux sont séduits par le style militaire. Ils se mettent à porter le pourpoint, qui est une sorte de veste matelassée et surtout courte, et forcément, ils rencontrent un problème, tout ce qui se trouve sous la ceinture est désormais tout nu. Pour couvrir leurs jambes, les hommes revêtent alors des chausses, un peu comme des collants, ou plutôt comme des bas, puisque ça ne monte pas jusqu'à la taille. Mais reste à régler l'épineuse question du membre honteux, comme on dit à l'époque, qui se trouve toujours à l'air libre. La solution vient d'un petit triangle de tissu qu'on ajoute entre les jambes pour relier les deux cuisses entre elles. Et ce triangle, il se nomme bray ou bien brayette.
Ah voilà, et c'est brayette qui a donné braguette.
Et oui, sauf que le petit triangle de tissu, il va pas rester petit très longtemps. Les soldats, encore eux, portent souvent sur le champ de bataille une coque entre les jambes pour protéger leur anatomie. Vous savez, un peu comme les joueurs de foot aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, elle est en métal. Et les civils vont l'adopter, cette braguette en relief, dans une version en cuir, moins belliqueuse. Et par un renversement symbolique dont la mode a le secret, ce qui devait servir à cacher sert désormais à mettre en scène une virilité triomphante.
Mais alors, elle ressemble à quoi cette coque ?
C'est une sorte d'étui qui prend peu à peu la forme d'un sexe dressé vers le haut. Et vous le savez, c'est souvent le cas avec les modes, elles ont tendance à dégénérer. Et celle-ci ne fait pas exception. Pour donner encore plus d'allure à leur braguette, les élégants l'assortissent à leur pourpoint. Ils la décorent de petits rubans, de perles, de broderies de fil d'or. Et puis ils s'en servent carrément comme d'une poche, en plaçant à l'intérieur un petit mouchoir brodé, un petit mot doux ou comble du romantisme, des fruits, qu'ils laissent mûrir là avant de les offrir à l'élu de leur cœur.
Ah, ça fait rêver.
C'est une belle invitation.
En fait, c'était une banane que j'avais à l'intérieur.
Oh non, j'ai pas envie de manger ces fruits-là, non.
Tout ça aide d'ailleurs à rembourrer la braguette, ce qui, je vous le donne en mille, est plutôt apprécié de ceux qui la portent.
C'est un peu la version masculine du push-up, en fait, c'est ça ?
Disons que tout le monde a bien compris que certains exagèrent un tantinet la taille de leur dispositif. François Rabelais dans Gargantua se moque d'ailleurs des braguettes qui, je le cite, ne sont pleines que devant, au grand préjudice du sexe féminin.
Mais alors, Ivan, qui porte ces braguettes ?
Eh bien, toutes les couches sociales, de la famille royale aux paysans, avec évidemment des différences dans la qualité du tissu et dans les détails. Les nobles adorent se faire peindre braguettes en avant, souvent avec leurs chiens, dont la tête arrive comme par hasard au niveau de l'entrejambe. Et ça ne vous surprendra peut-être pas, mais le roi Henri VIII d'Angleterre a été l'un des plus fiers représentants de cette tendance. Le roi adore les vêtements, il s'en sert pour asseoir sa légitimité, pour avoir l'air fort et puissant, d'autant plus que sa dynastie est toute récente. Et surtout, Henri VIII n'arrive pas à concevoir un héritier mâle, ce qui fragilise évidemment sa lignée. Il va donc porter la braguette pour bien montrer à tout le monde que sa virilité est intacte.
Mais donc la braguette n'est pas vraiment un outil de séduction ?
Ah non, ce serait plutôt un signe extérieur de force, de domination, comme un avertissement lancé à la face des autres hommes. Et qui mieux qu'Henri VIII, donc, pour symboliser cette masculinité un poil toxique, lui qui épuisa tout de même 6 femmes et en fit oxyre 2. Le souverain est mort en 1547, la mode de la braguette luxuriante lui a un peu survécu, jusqu'à la fin du XVIe siècle, mais en réalité la braguette n'a jamais disparu, elle s'est tout simplement intégrée aux vêtements de manière plus pudique et disons-le, quand même un petit peu moins rigolote.
Mais ça on est d'accord.
Vous êtes pour un retour de la braguette comme ça ?
Non.
La braguette ostentatoire ?
Non, parce que je sais pas.
Ben oui,
il y a déjà des pantalons où c'est
oui, ou ça
oui. Ouais. Hein ouais. Merci Yvonne, Ivan. Je pense à De Gaulle. Merci Ivan. C'était passionnant votre histoire de braguette.
Merci.
Mes aïeux qu'à l'époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Ivan Jacob et surtout avec vous, David Castello-Lopez. Alors, on va parler du Fanta que vous avez amené à porter là.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'estime que pour bien profiter de ma chronique sur le Fanta, il faut que vous vous remémoriez clairement quel goût ça a. Donc, j'ai apporté du Fanta dans ce studio que je vais ouvrir devant vous en espérant qu'il ne m'explose pas au visage. On va voir ce qui se passe. Voilà. Oh, allez, ça c'est vraiment le beau son du Fanta. Je vous en sers quelques verres. Alors, je sais que Stéphane, vous êtes un petit peu Weight Watchers en ce moment. Mais ce n'est que 27 calories pour 100 millilitres. Ce qui fait que si je vous en sers 2 centilitres comme ça, ça fait très très peu. Je vous propose de tremper vos lèvres dedans. Je vous en sers aussi, Ivan.
Merci.
Voilà, vous pouvez prendre.
C'est écœurant. Hein.
C'est un petit peu écœurant.
Oui.
Attendez, et Jean-Luc aussi.
C'est la première fois que j'en bois dans un verre à vin.
Exactement.
Et quand on voit la couleur, on se dit que ça sent quand même à des analyses d'urine. Hein.
Alors, vous êtes un peu malade, si c'est ça la couleur de vos urines. Alors voilà, je vous propose de goûter, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je sais pas, ça n'a pas le goût de l'enfance. C'est un peu écœurant.
C'est un peu médicamenteux.
Oui. Mais j'aime bien.
Vous savez, quand il y a des médicaments exomuques ou
oui,
d'autres.
Le fluimucil, par exemple.
Voilà. Quand vous prenez la poudre, vous la mélangez, vous mettez avec de l'eau, et ben c'est exactement ça.
Je suis assez d'accord.
Parce que là, ça va pas guérir notre bronchite.
Ça va rien guérir du tout, ça va vous mettre du sucre dans le sang. Moi, j'en avais pas goûté depuis 15 ans. Hier soir, je suis sorti de chez moi vers 20h, il faisait chaud, j'étais un petit peu fatigué, j'en ai pris, et j'ai vraiment été pénétré d'une impression de volupté très très grande. Tout ça grâce au Fanta. Donc ça m'a mis vraiment, si vous voulez, dans des bonnes dispositions pour faire cette chronique et la commencer. Le Fanta, à votre avis, ça a été inventé par qui ?
Par des Américains ?
Non.
Un Français ?
Non.
Coca-Cola ?
Un Allemand ?
Oui.
Un Allemand.
Ça a été inventé par les nazis. Et quand j'ai lu ça,
j'imagine votre délectation.
Exactement, j'étais tellement heureux. Cette boisson orange fluo, trop fun de l'enfance, inventée par des nazis. C'est comme si on apprenait que Staline avait inventé le Kiri. Vous voyez, c'est vraiment super agréable. Alors, avant d'en venir aux nazis, il faut d'abord passer dans cette histoire par une autre boisson plus célèbre encore que le Fanta, qu'on appelle le Coca-Cola. Le Coca-Cola, dans les années 20. C'était vendu surtout aux États-Unis, mais il y avait un autre pays où les gens adoraient ça, et ce pays, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, donc, pas encore nazie. Et si ça se vendait si bien en Allemagne, c'est notamment grâce au chef de la filiale allemande de Coca-Cola, qui s'appelait Max kite. Max, il recevait du sirop de Coca-Cola de la maison mère d'Atlanta, il le mettait en bouteille et paf, ça se vendait super bien en Allemagne. Et ça a continué à se vendre très bien en Allemagne, même après que les nazis sont arrivés au pouvoir. Coca-Cola a même accepté de sponsoriser les Jeux Olympiques nazis de 1936 à Berlin en mode oui, bon, le nazisme, c'est pas ouf, mais l'argent, c'est quand même important également. Et puis, la guerre est arrivée et au bout d'un moment, Coca-Cola, ils ont fini par dire à Max en fait, on va arrêter rapport au fait qu'on n'a pas envie que vous puissiez vous désaltérer parce que l'objectif pour l'instant, c'est de vous marave le visage. Donc, on va pas vous donner du Coca-Cola. Donc, plus de Coca pour les nazis. Et là, Kite, il était embêté parce qu'il avait plus rien à vendre. Mais c'était un monsieur plein de ressources et donc il a demandé à des ingénieurs de trouver une solution de substitution au Coca en utilisant que des matières premières disponibles en Allemagne. Et là, ces ingénieurs, ils ont trouvé une façon de recycler deux produits qui normalement étaient jetés à la poubelle, à savoir un, le petit lait, qui est un déchet issu de la fabrication du fromage, qu'on appelle aussi le lactosérum, et deux, les restes de pommes après que les pommes ont été comprimées pour en faire du jus. Ils ont mélangé les deux et ça a fait un truc sans doute moins sympa que le Coca, mais sympa quand même, que Max a appelé le Fanta, parce que c'était à la fois fantastique et fantaisiste. Un petit peu tiré par les cheveux, en tout cas c'était ça l'idée. Et en Allemagne, en pleine guerre, ça a fait un beau carton. Alors vous allez me dire, attends, le Fanta aujourd'hui, c'est pas du tout des restes de fromage avec des morceaux de pommes, connard. Vous voyez, parce que je sens que vous êtes un peu
comme ça.
Vous
n'avez pas dit connard.
Vous êtes un peu agressif.
Moi j'ai dit connard.
Ouais, voilà, vous êtes un peu agressif. Vous êtes un peu agressif. Laissez-moi finir. Je vais arriver à pourquoi il y a eu un changement dans le Fanta. Avant ça, je reviens à l'Allemagne. Pourquoi le Fanta a cartonné en Allemagne? Eh bien, en particulier parce qu'il y avait dedans du sucre. Ben à un moment où c'était très très difficile de trouver du sucre. Et donc non seulement les Allemands ont commencé à boire du Fanta, mais ils ont aussi commencé à s'en servir pour sucrer d'autres trucs et même comme base pour faire des soupes. Vous voyez, c'était vraiment la guerre, on n'avait pas grand chose. Et puis la guerre s'est finie, les relations entre Coca-Cola et sa filiale allemande ont été rétablies et Max, il a arrêté de produire du Fanta au fromage parce qu'il n'y avait plus besoin. Mais quelques années plus tard, dans les années 50, Coca-Cola commençait à être concurrencé par Pepsi et ils se sont dit, faut qu'on se diversifie, faut qu'on trouve une idée. Et là, ils ont ressorti de leur carton l'idée générale du Fanta. J'ai bien dit l'idée générale du Fanta, parce qu'effectivement, comme le rationnement était fini, c'était plus nécessaire de mélanger du fromage avec des pommes. On pouvait remplacer tout ça par des oranges, des bonnes oranges. C'est ce qu'ils ont fait en 1955, et c'est à cette date-là que la première bouteille de Fanta moderne, la même boisson que vous avez goûtée au début de cette chronique, a été commercialisée. Et c'est devenu pendant un moment, et même je pense encore aujourd'hui, l'un des sodas les plus vendus au monde. En 2015, Fanta a fêté ses 75 ans en ressortant quelque chose qui s'approchait du Fanta originel, le tout annoncé par une publicité qui disait:
Und um das zu feiern, bringen wir das Gefühl der guten alten Zeit zurück mit der neuen Fanta Classic.
Pour célébrer cet anniversaire, traduction, nous ramenons la sensation du bon vieux temps avec le nouveau Fanta Classic. Vous avez bien entendu, ils ont parlé de l'époque nazie comme du bon vieux temps. Voilà, ce qui a amené un certain nombre de blagues assez rigolotes sur internet où on voyait Hitler sur des bouteilles de Fanta qui faisait des sourires comme ça. Ils ont enlevé la pub assez vite ensuite parce qu'évidemment, parler du nazisme comme du bon vieux temps, c'est un petit peu limite. Voilà.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont vécu dans la jungle. L'écrivain Rudyard Kipling, qui a vécu dans sa tête surtout, et dans son livre de la jungle. Puis le soldat japonais Hiro Onoda, qui a passé 30 ans dans la jungle philippine, pensant que la guerre n'était toujours pas terminée.
Et l'ex-otage Ingrid Betancourt, qui a passé 6 ans en captivité dans la jungle amazonienne, on s'en souvient. Mais peut-être pas de tout, vous verrez.
À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.